Je suis, comme je l'ai dit précédemment, avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est membre du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Bonjour, monsieur Ganassia.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir. En fait, on va aborder un sujet qui interroge, qui interpelle et qui demande sans doute quelques réactions et beaucoup d'adaptations, c'est ça ?
Ah ben certainement, oui. Hein, l'intelligence artificielle, puisque c'est mon domaine, hein, transforme la société et ça demande à essayer de maîtriser un peu ces évolutions hein, qui nous surprennent tous les jours.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle ère qui a commencé avec évidemment de nouveaux pièges et de nouvelles précautions à prendre ?
J'ai l'impression effectivement que ça change beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Le monde n'est plus le même. Ça a commencé certainement avec le numérique, le web, hein, qui a changé les relations entre les individus. Hein, le fait que géopolitique traditionnelle, il y avait une coextension de l'État et du territoire. Et avec le web, tout d'un coup, on pouvait acheter en dehors des frontières. Alors, ça ne dit pas peut-être aux jeunes auditeurs. Hein. Et moi, j'ai des souvenirs quand j'étais jeune qu'on n'achetait pas à l'étranger. Hein. Non, donc, il y a des circulations d'informations, des circulations de marchandises entre tous les pays. Et puis, depuis 4 ans maintenant, hein, un peu moins, avec l'IA générative, il y a ces machines extraordinaires qui sont en mesure de générer automatiquement des textes, des images, des vidéos. Hein, et tout ça change énormément. Hein, et sur ça pose des questions qu'on n'avait pas imaginées. Hein. Lorsque vous avez un texte, on ne sait pas qui l'a écrit. Hein, ça peut être une machine. Et de façon plus générale, bien sûr, ces modèles de langage qui sont à la source de cette IA générative sont des formes de mémoire de notre langue, puisqu'elles aspirent les relations invisibles qui existent entre les mots. Et à partir de cela, elles sont capables de fabriquer automatiquement, à partir d'une suite de mots, le mot plus probable qui suit, puis le plus probable qui suit, le plus probable, etc. Et ça génère des textes qui sont syntaxiquement correctement construits. Donc tout ça, bien sûr, change beaucoup. Ça change dans les activités quotidiennes. Beaucoup de métiers de l'écrit, bien sûr, peuvent être épaulés par ce type de technologie, avec tous les dangers, bien sûr, que ça peut recéler, car si ces textes sont vraisemblables, hein, ils ne sont pas vrais. Hein, et c'est bien sûr toute la question qui peut se poser aujourd'hui, celle de la vérité dans ce monde nouveau à l'intérieur duquel nous sommes plongés.
Alors, quand on dit ils ne sont pas vrais, ils peuvent être vrais à partir de documents authentiques.
Alors, il se peut qu'il soit vrai, hein, plus exactement. Le cœur de ces modèles de langage conduit, comme je viens de le dire, à enregistrer les relations invisibles entre les mots. Donc, si vous donnez une suite de mots, hein, ça prolonge. Hein, et bien sûr, ça fait un texte qui est bien construit. Mais a priori, il n'y a aucune raison que ce soit vrai parce qu'il n'y a pas de validation. De même, lorsque des gens parlent, quelquefois ce qu'ils disent est vrai, quelquefois ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ensuite, on est capable de spécialiser ces modèles de langage sur des sous-domaines. C'est ce qu'on appelle les RAG. En anglais, c'est le Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire qu'on va spécialiser à ce moment-là ces modèles sur un corpus particulier. Par exemple, on peut prendre un corpus juridique, on va être certain que les réponses qui seront données se trouvent à l'intérieur de ce corpus juridique. Donc, on sera certain que le résultat est vrai au sens où c'est référencé. Mais, bien sûr, il reste toujours un problème. C'est dans les prétoires, hein, on demande aux témoins de dire toute la vérité, rien que la vérité. Hein. Et là, bon, bien sûr, ils diront rien que la vérité, mais on n'est jamais certain qu'ils disent toute la vérité. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait plusieurs réponses et qu'ils n'en donnent qu'une seule. Donc, vous voyez que, de toute façon, il y a toujours ce risque de mensonge par omission qui reste présent.
Alors, on peut aussi utiliser l'IA hein, pour résumer un texte à partir d'un texte écrit par quelqu'un, ou même une interview radio qui, à la fin, est restaurée, enfin raccourcie, transformée par l'IA, mais qui peut être corrigée par l'auteur, hein, le journaliste. Donc, ça peut être un outil intéressant aussi.
Ah, tout à fait, bien sûr, hein, ça peut aider énormément, avec le risque, hein, pour les jeunes gens, hein, qu'ils se fassent l'économie de la lecture. Hein, et à ce moment-là, bien sûr, on perd énormément, puisque c'est quand même dans le détail du texte qu'on va trouver les sources d'informations. Vous savez, comme souvent, hein, c'est ce qu'on appelle un pharmacone, hein, c'est un terme qui avait été introduit par Platon, hein, pour dire que c'est une substance qui est à la fois un remède, hein, comme la pharmacie, hein, et puis en même temps, une drogue. De même, on peut dire, c'est un peu comme la langue des hommes, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Donc, bien
Alors,
sûr, il faut essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure des choses.
vous avez parlé tout à l'heure de la génération web. Et évidemment, je pense que le web a apporté aussi, malgré ses travers, de nouvelles connaissances ou de nouvelles possibilités de connaître au travers des documents présentés ou des analyses ou des propos qui y sont inscrits et des photographies, des vidéos, etc. Donc là, on est sur une nouvelle génération. Est-ce qu'on peut dire que malgré ces dangers, cet usage rationalisé, on va dire, maîtrisé d'une certaine manière, va se heurter aussi à ces gens qui veulent tricher et comment justement s'en prémunir?
Alors, vous voyez, c'est une question extrêmement délicate avec les technologies de l'information. Revenons sur le web. C'est extraordinaire. Pendant des millénaires, depuis que l'homme est homme, l'accès à la connaissance était très difficile, très coûteux. Hein, les livres étaient chers. Aujourd'hui, avec le web, tout le monde a accès quasiment gratuitement à l'ensemble de la culture, au moins à toute la culture classique. Donc c'est une démocratisation extraordinaire de la connaissance. Et en même temps, on voit que nous sommes dans des sociétés très inégalitaires, parce qu'il y a ceux qui sont capables d'en profiter, d'en tirer parti, et puis ceux qui, au contraire, ont leur attention qui est totalement détournée. Ben, je crois qu'il en va exactement de même avec l'IA générative. Ça peut être un progrès formidable, et je pense que beaucoup de personnes pourront en bénéficier. Ça peut accélérer leur travail, ça peut être un moteur de recherche extrêmement puissant, ça peut faire des tâches qui sont très fastidieuses à la place des individus, mais bien sûr, ça peut aussi conduire à ce que les gens n'apprennent plus à écrire et n'apprenant plus à écrire, à ce qu'ils n'apprennent plus à penser, à ce qu'ils aient une façon de travailler extrêmement superficielle. Et ce sera, je crois, l'enjeu majeur dans les années qui viennent. Comment faire pour former les gens à ces technologies pour qu'à la fois ils sachent qu'elles existent, qu'ils puissent en tirer parti et en même temps qu'ils n'en soient pas victimes. Donc moi je trouve que c'est un enjeu extrêmement important et en même temps passionnant pour les années qui viennent.
Alors pour les jeunes gens, hein, les élèves même, il y a une importance à maîtriser le mieux possible le monde, de le comprendre, d'avoir de l'histoire de ce qui s'est passé et de pouvoir éventuellement avoir une idée de ce qui pourrait se profiler, hein. Actuellement, à l'école, on va dire l'informatique est déjà bien entrée, l'utilisation du web sous contrôle est quand même assez bien réalisée. Pour ce qui est de l'IA, où on en est?
Ah ben, c'est bien sûr, je crois, un point difficile, car ça devrait entrer, je crois, vraiment dans la culture. Et pour ça, il faut en comprendre la généalogie, en connaître l'histoire, les différentes étapes, savoir tout ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle, savoir même ce que l'on entend par intelligence artificielle. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'intelligence artificielle expliquée aux humains. C'est un dialogue avec quatre collégiens imaginaires qui viennent me rencontrer car ils doivent rédiger le numéro spécial d'une revue de leur collège consacrée à l'intelligence artificielle et ils me posent des questions sur le sujet. Et je crois qu'il est important de commencer par connaître la signification des mots. Vous savez, des notions comme les notions d'algorithme, d'ordinateur font l'objet de beaucoup de malentendus. De même, l'intelligence artificielle effraie parce qu'on pense que c'est une machine qui va être dotée d'un esprit. Or, le terme intelligence est éminemment polysémique. Il peut vouloir dire effectivement l'esprit, il peut aussi vouloir dire l'ingéniosité, parce que quand on dit d'un élève qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est astucieux. Et ça ne veut pas dire, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, que les machines vont être astucieuses. Mais le vrai sens du terme intelligence a été introduit par des psychologues à la fin du XIXe siècle, et il s'agit de l'ensemble des facultés mentales. Et ce que l'on essaye de faire en intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui existe depuis 70 ans, donc ce que l'on essaye de faire, c'est de simuler les facultés mentales. Par exemple, la perception, le raisonnement, la mémoire, et c'est ce que l'on a fait du point de vue scientifique, c'est extraordinaire, mais ensuite on peut utiliser ces simulations dans un certain nombre de technologies, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec une technologie particulière, alors, ce qui est le plus courant aujourd'hui, c'est la modélisation du langage, avec la génération automatique de texte. Bien sûr, on est capable aussi de faire de la reconnaissance faciale, de faire de la reconnaissance de la parole, ce qui permet de faire des machines à dicter. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'on fait aussi de la démonstration automatique de théorèmes. Donc tout ça ouvre des perspectives vraiment passionnantes pour le futur. Et je crois qu'il faut bien sûr, distinguer ce qu'est cette science et puis ensuite les applications pratiques de cette science dans beaucoup de domaines particuliers. Et il me semble important, on parlait donc d'éduquer très tôt les jeunes gens pour qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière. Vous voyez, quel a été le projet qui a été à l'initiative de ces grands scientifiques dans les années 50, et puis quelles sont les découvertes que l'on a faites. Il y a eu des voies de recherche qui sont révélées être plus difficiles que ce qu'on avait imaginé, parce que c'est une aventure qui a été extrêmement mouvementée au cours de ces 70 dernières années, avec des résultats extraordinaires. Et je crois que c'est ça. Ce qui est important, c'est de bien comprendre, ça doit faire partie de la culture de l'honnête homme du XXIe siècle, que de connaître ces notions de base qui sont à l'origine, et de connaître les concepts qui sont cruciaux dans ce type de discipline scientifique.
Alors justement, par rapport à cette culture générale du parfait élève et après de l'adulte en devenir qui devrait augmenter encore ses capacités, est-ce que l'IA est quelque chose en plus qui donne de la data à ces personnes ou est-ce qu'elle limite le champ de recherche et les efforts justement?
Ah ben, je pense que ça ouvre énormément de perspectives. C'est que la science s'est transformée avec l'intelligence artificielle et des disciplines comme la chimie, par exemple, ont beaucoup évolué. La biochimie, vous savez que on a donné il y a 2 ans le prix Nobel à trois informaticiens car ils ont réalisé un programme qui s'appelle AlphaFold, qui est capable de prédire le repliement des protéines. Alors, pour qu'on comprenne bien, il faut savoir que les protéines sont les usines du vivant. Notre corps est constitué d'énormément de protéines. Et la fonction des protéines dépend de leur forme. Vous avez toutes sortes de protéines. Et bien sûr, on peut essayer d'inventer de nouvelles protéines, mais bien sûr, il faut être capable d'anticiper leur forme. Et ça, c'est extrêmement difficile. Or, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, permet, avec ce programme AlphaFold, de passer de la séquence des acides qu'on est capable de construire automatiquement à la forme pour anticiper ce que va être la fonction de ces protéines. Et beaucoup de biochimistes pensent que la conception de médicaments, ce qu'on appelle en anglais le drug design, va être révolutionnée par l'intelligence artificielle. Oui, ça c'est un exemple, mais il y en a énormément. En astrophysique, on utilise énormément d'intelligence artificielle pour traiter ces immenses masses de données. Quand on dit qu'il y a beaucoup de données, on dit ce sont des données astronomiques, et c'est encore plus grand, plus important avec l'astrophysique aujourd'hui, parce que les grands observatoires génèrent des quantités vertigineuses de données qu'il faut être capable de traiter avec l'intelligence artificielle, mais bien sûr, beaucoup d'autres disciplines, la physique et même les disciplines des humanités sont bouleversées par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans un domaine qu'on appelle les humanités numériques, c'est l'équipement des disciplines d'érudition traditionnelles avec ces outils qui permettent de mieux comprendre les œuvres humaines. Et donc là encore, et on peut faire beaucoup de progrès intellectuels avec l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, c'est pas une machine qui pense à notre place, mais si on l'utilise bien, ça nous aide à penser différemment avec les machines pour le futur.
Alors, justement, quand on dit intelligence artificielle, comme vous le dites, ça représente beaucoup de choses. Préciser les choses, c'est bien aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des IA généralistes et d'autres plus adaptées à certaines profession, par exemple, avec des datas particulières, voire privées, si on veut préserver les données parce qu'elles sont précieuses.
Alors, tout d'abord, je pense que le terme d'intelligence artificielle doit être précisé. Je vous ai dit, c'est une discipline scientifique. Il y en a une seule, hein, d'intelligence artificielle. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire les IA. Hein. En réalité, ce qu'on veut dire, lorsqu'on dit les IA, c'est des dispositifs qui sont programmés avec des techniques qui ont été développées par la science intelligence artificielle. Alors ça a un nom, hein, ça s'appelle des agents artificiels. Effectivement, ces agents artificiels, ils peuvent être spécialisés dans des disciplines particulières. Vous allez avoir des agents artificiels qui vont, par exemple, faire du diagnostic médical, hein, et même dans le diagnostic médical, ils vont le faire dans des disciplines particulières. Par exemple, en dermatologie, vous avez des agents qui sont capables de prendre des photos de grains de beauté et de faire un diagnostic pour savoir si potentiellement ce grain de beauté va être malin, si c'est un cancer, ou au contraire, s'il est bénin. Mais vous en avez dans tous les champs de la médecine. Et puis, moi, j'ai parlé de la médecine, mais d'autres domaines, vous pouvez aider. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, il y a très longtemps, je travaillais avec des géologues, hein, et on peut essayer d'aider à interpréter un certain nombre de données. À l'époque, c'était pour la prospection pétrolière, hein, mais ça peut être aussi pour les analyses sismiques, hein, pour voir ce qui se passe. Hein. Ça peut être pour la climatologie. Hein. Les membres du GIEC font appel à beaucoup de techniques d'intelligence artificielle pour modéliser les évolutions du climat. Et chaque fois, bien sûr, ce sont des techniques qui sont particulières, donc on peut utiliser de l'apprentissage machine sur des très grandes quantités de données, on peut utiliser les grands modèles de langage qui sont des techniques d'apprentissage machine, puis on a d'autres approches de l'intelligence artificielle avec de la démonstration automatique par exemple, hein, essayer d'organiser les connaissances, hein. Tout ça c'est extrêmement riche. Hein, moi-même en ce moment je travaille dans mon équipe sur la détection des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les infox, avec des approches d'intelligence artificielle. On peut essayer, hein, de regarder aussi parmi tous les articles de journaux qui sortent, quels sont les articles qui sont un tout petit peu différents, c'est-à-dire qui va être atypique, la nouveauté. Hein, voilà, ça fait partie de cet immense champ des possibles qui sont ouverts grâce à l'intelligence artificielle.
Alors, est-ce que c'est les outils, par exemple, Facebook, TikTok, etc., est-ce qu'ils peuvent intégrer des outils IA qui pourraient justement valider ou non, enfin du moins alerter sur le fait qu'une proposition, une vidéo, etc. soit un fake?
Alors, bien sûr, c'est une excellente question. On peut coupler aux réseaux sociaux des outils d'intelligence artificielle pour détecter soit des fausses informations, encore que vous voyez, il est très difficile de savoir ce qu'est une fausse information. On peut dire c'est une information atypique, c'est une information nouvelle, et puis on peut essayer de détecter des informations qui sont générées automatiquement. On peut essayer de détecter des images qui sont générées automatiquement. Alors, ça n'est pas certain, on a de personnes qui travaillent sur le sujet. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai organisé une conférence, hein, à Paris qui s'appelait Infox sur scène, hein, sur ce sujet. On organise cette conférence tous les ans. Et là, il y a des spécialistes, il y en a beaucoup au CNRS, hein, et dans les laboratoires de recherche, qui essayent de caractériser ce qu'est une image générée automatiquement. Les résultats ne sont pas toujours extraordinaires, hein, parce qu'il y a à la fois dans la texture de l'image des traits qui montrent que c'est généré automatiquement, mais aussi il y a des caractéristiques sémantiques, c'est-à-dire par exemple la façon dont les drapeaux sont construits qu'on ne détecte pas automatiquement. Donc tout ça, ça fait partie d'efforts de scientifiques, ça peut aider. Et moi-même, je travaille plus sur le traitement du langage naturel et on essaye de trouver des caractéristiques statistiques dans les textes générés qui montrent que ça a plutôt tendance à être une technique d'intelligence artificielle, un agent artificiel qui a généré ces textes. Donc oui, on peut aider, hein, pour cela, hein, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un critère, il y a plusieurs critères en même temps qui aident à détecter le fait que ce sont des fausses nouvelles.
Alors avec parfois des erreurs, par exemple, il y a un musicien, auteur, compositeur qui a écrit une chanson, il a voulu la publier sur, je vais dire YouTube par exemple, hein, et puis ça lui a été refusé au motif que c'était déjà quelque chose qui existait.
Ah oui, bien sûr, c'est tout le risque. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, car on peut faire une censure hein, très très grave, c'est-à-dire que délier à certaines personnes hein, la possibilité de publier des nouvelles en disant ah oui, mais ça c'est une fausse nouvelle. Alors soit parce que c'est quelque chose de très original, soit au contraire parce que ça ressemble à quelque chose qui aurait pu être généré automatiquement. C'est pour ça que ce sera, je crois, un enjeu très 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 important pour le futur. Hein. Mais en même temps, c'est essentiel parce que vous voyez, on est dans une société de l'information hein, où on reçoit énormément de nouvelles différentes et où ces nouvelles non seulement sont fausses, mais elles ressemblent à des choses. Vous voyez, par exemple, ça ressemble à une photo. Donc on a l'impression que c'est la réalité qui a été prise. Et puis qui plus est, vous voyez, on envoie sélectivement ces informations à des publics précis, à des segments de la population. C'est vrai qu'il est très difficile de débattre avec d'autres. Vous voyez, quand moi j'étais petit, bon, la télévision, on la regardait, et puis quand on était étonné, on pouvait en discuter avec d'autres. Parce que là, chacun reçoit sur les réseaux sociaux les informations qui le concernent. Alors, il trouve que c'est formidable, il en discute avec les autres, mais il peut discuter de ces informations avec les personnes qui reçoivent les mêmes informations. Alors, le président d'une très grande chaîne de télévision, Arte, qui s'appelle Bruno Patino, a écrit un livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Il dit, ben, on est un peu comme des poissons rouges dans nos bocaux. On a chacun des informations et on en discute avec les autres poissons rouges du même bocal et on est en général d'accord parce qu'on a les mêmes informations qu'eux. Mais on oublie malheureusement qu'il y a d'autres bocaux avec d'autres poissons rouges avec qui on n'échange pas d'informations. Donc c'est bien sûr ce risque d'avoir des sociétés de plus en plus fragmentées à cause de ces abus d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une fatalité, mais en tout cas, c'est un danger.
Et puis ce danger peut être découplé pour les personnes qui restent chez elles, accrochées à toujours les mêmes thèmes, et où elles ne voient pas les pièges, bien sûr, au lieu d'échanger avec des humains dans la vie courante.
C'est ça. Alors, c'est bien sûr, là encore, hein, c'est extrêmement important de pouvoir dialoguer avec d'autres et de pouvoir essayer de confronter les informations d'origines différentes. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une éducation hein, à cette société de l'information très tôt. Et que on soit capable de faire un peu ce que font les journalistes. Hein, c'est-à-dire que quand un journaliste reçoit une information, ben, il la prend pas telle quelle, hein, il la confronte. Hein, on apprend ça dans les écoles de journalistes. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on est tous potentiellement des journalistes dans cette société de l'information, parce qu'on peut chacun relayer de l'information. Et donc, on a une responsabilité particulière qui est la même que celle des journalistes. Et donc, je crois que l'éthique, hein, la morale dans la société du futur, c'est de comprendre que chacun comprenne sa responsabilité. Ça, c'est un point important. Et puis, un deuxième point important, c'est que, donc, avec les agents conversationnels, on peut avoir des discussions, des échanges. Et bien sûr, aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes qui sont très seules préfèrent échanger avec leur agent conversationnel qu'avec d'autres humains. Et ça, c'est très grave parce qu'elles peuvent s'enfermer complètement. D'ailleurs, on a vu des exemples hein, de jeunes gens qui se sont suicidés hein, parce qu'ils avaient un échange avec leur machine hein, et qui la machine voulait les encourager, leur a dit oui, si tu veux te suicider, c'est très bien, hein, vas-y, saute le pas. Hein, mais bon, je dis ça en riant, mais c'est quand même tragique.
Alors
Mais de façon plus générale, voilà, il faut être très, très attentif à
est-ce
ça.
que ces formes de discussion ne peuvent pas être aussi un danger dans la mesure où, entre guillemets, la machine peut tout connaître de cet individu et le manipuler?
Alors, tout à fait, hein, bien sûr, parce qu'on extorque énormément d'informations par ce biais, puisque quand on échange, on va tout savoir sur la personne elle-même. Hein. Et alors, qui plus est, vous savez qu'aujourd'hui, non seulement prendre beaucoup d'informations de la personne, utiliser cette information à mauvais escient, hein, parce qu'il y a de nouvelles formes de criminalité hein, qui se mettent en place, mais vous savez qu'il y a même des cybercriminels qui savent comment essayer de changer la conception. C'est que le modèle de langage, il évolue en fonction des réponses que leur donnent les utilisateurs. Par exemple, si vous posez une question qu'elle est fausse, vous dites non, ça c'est pas vrai, et il va se corriger. Mais il y a aujourd'hui des cybercriminels qui ont des techniques qui permettent de biaiser les réponses de ces modèles de langage. Hein. C'est ce qu'on appelle hein, l'injection de prompt hein, ou l'empoisonnement de données. Et donc, on peut intentionnellement faire en sorte que la machine vous donne sur un sujet particulier des réponses trompeuses. Par exemple, on va vous donner des réponses très positives sur une entreprise, au contraire très négatives sur une autre entreprise qui serait une concurrente. Et bien sûr, ça veut dire que on risque de commettre de très graves erreurs avec ces techniques.
Alors, là, on va dire qu'il y a quand même un début de régulation avec l'Union européenne. Est-ce qu'il y a aussi à venir des batailles juridiques qui vont se mettre en place avec vraiment des champs complets de spécialisation dans le droit pour trouver des réponses à des problématiques?
Alors, bien sûr, vous avez l'Europe qui a essayé de mettre en place un certain nombre de régulations, beaucoup de régulations d'ailleurs, et en particulier une régulation spécifique pour l'intelligence artificielle qui s'appelle IA. Alors, c'est une régulation extrêmement lourde, difficile à lire et qui a les défauts de beaucoup de textes européens, parce qu'on a voulu mettre autour de la table toutes les parties prenantes et on a fait des compromis. Donc c'est un texte qui est très difficile à appliquer parce qu'il y a des règles, il y a des exceptions aux règles, des exceptions aux exceptions, ce qui fait qu'il est très long et que, bien sûr, très peu de personnes le maîtrisent. Donc ça, ça fait en sorte que peu de gens veulent l'utiliser. Donc les industriels européens ne veulent pas l'utiliser, un certain nombre de citoyens européens ils sont opposés et donc pour l'instant il ne va pas être appliqué. Hein. Alors qui plus est, les industriels américains ne veulent pas qu'on, qu'on l'utilise. Donc on va avoir vraiment beaucoup de difficultés. Donc une régulation, elle doit être relativement claire et simple pour que tout le monde puisse la comprendre. Tandis que là, on a affaire à des régulations qui sont trop complexes. Quand j'étais enfant, mon instituteur me disait « Nul n'est censé ignorer la loi », ce qui me faisait très très peur. Mais là, vous voyez que ce sont des réglementations qui sont tellement touffues que personne n'est en mesure d'être certain de les avoir comprises. Et d'ailleurs, en Europe, on nous dit « Oui, mais l'application va dépendre de la façon dont les différents pays vont se les approprier ». Donc tout ça montre que ça ne règle pas totalement le problème. Et ça le règle d'autant moins que le propre de l'intelligence artificielle et du numérique, c'est d'évoluer, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que c'est neuf, ça nous surprend. Et la loi, elle considère que le monde est fermé à un moment donné. Hein. On sait quels sont les dangers, quelles sont les attitudes que l'on condamne. Tandis que avec les technologies, on est surpris. Hein. Et un coup d'œil rétrospectif montre bien à quel point on a fait des erreurs. Par exemple, lorsque la première version du règlement sur l'intelligence artificielle a été réalisée, en juin 2022, on n'avait pas idée de ce qu'étaient les grands modèles de langage, et donc on a oublié, les chatbots étaient considérés comme peu dangereux, et donc on n'a pas légiféré dessus. Et dès 2023, on a légiféré. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez cruel. Vous savez qu'il existe des logiciels qui permettent à partir d'une photo de changer les habits et puis éventuellement d'enlever les habits. Ouais, ce sont des logiciels de dénudage et il arrive que des jeunes gens qui ont été conduits par une jeune femme qui veulent se venger utilisent ces logiciels pour créer une image de cette personne nue et la diffuser sur les réseaux, ce qui est extrêmement humiliant. Hein, et des jeunes femmes d'ailleurs ont été traumatisées, certaines sont allées même jusqu'à se suicider. Donc il faudrait certainement interdire ce genre de logiciels. Or, pour l'instant, le règlement européen ne permet pas de le faire. Alors, dans les législations nationales, on peut essayer de trouver des cas particuliers où il y a une atteinte à la dignité de la personne. Mais vous voyez, c'est juste qu'on comprenne bien que la difficulté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne peut pas anticiper tous les possibles. Et donc, il faut, je crois, des grands principes, mais ensuite, il faut laisser aux magistrats la capacité d'interpréter la loi pour l'adapter aux situations particulières nouvelles qui sont créées par les technologies.
Alors Jean-Gabriel Ganassia, peut-être pour conclure, pourriez-vous donner quelques références d'ouvrages, des choses intéressantes à lire et voir des sites à consulter pour éviter tous ces pièges dont vous venez de parler ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai écrit ce petit livre « L'IA expliquée aux humains », qui a été publié aux éditions du Seuil, qui est ce petit dialogue qui permet de connaître ces notions de base autour de l'intelligence artificielle. Et puis sinon, j'avais écrit il y a 2 ans, il est reparu cette année en 2025, enfin, il y a un an en 2025, en collection de poche, un ouvrage qui s'appelle Servitude virtuelle, hein, sur éthique et politique à l'heure du numérique. Et dans la première partie, je dessine ce que j'appelle la rose des vents du numérique, c'est-à-dire l'équivalent d'une rose des vents, hein, c'est nous dire voilà, quels sont les repères qu'on peut avoir dans cette société nouvelle, très surprenante, qui est celle de l'information sur laquelle nous vivons.
Bien, merci beaucoup d'avoir été pour aujourd'hui notre boussole, Jean-Gabriel Ganassia.
Merci beaucoup de votre invitation et au
Bonne
plaisir.
Journée, oui, merci beaucoup.